Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de InVino Radio. À mes côtés, Philippe Fabrac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe.
Bonjour Renan.
Et un autre Philippe, hein, c'est la journée des Philippe, Philippe Bidalon, journaliste et chroniqueur vin. Bonjour Philippe II.
Bonjour.
Je peux dire quoi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les émissions animées par Émilien Boutilla, qui est le chef de cave du champagne Piper Etsy, qui est également élu chef de cave, meilleur chef de cave du monde hein, en 2022 par l'International Wine Challenge. Bonjour Émilien.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Alors les terroirs et les spécificités de la Champagne, on en parle aujourd'hui grâce à vous.
Hein. Eh bien tout à fait, c'était l'idée de partager ça avec vous et avec nos auditeurs. Pour commencer et faire simple, si je vous dis Chardonnay, ça parle à tout le monde autour de la table et ça parle je pense à la plupart de nos auditeurs. Par contre si je vous dis Avize, Beton, Montgueux, Bassuet ou Vaudemange.
Bon restez poli, restez poli Émilien.
Donc, le dénominateur commun de ces cinq mots, ce sont des villages de Champagne, des crus, et ces cinq crus sont emblématiques pour le cépage chardonnay. Donc, voilà pour la petite explication. Et ce qui est intéressant, c'est que le chardonnay dans ces cinq villages-là, dans ces cinq crus-là, s'exprime de manière complètement différente. Je peux vous en parler en toute transparence, d'autant que dans l'équipe Eno chez Piper, on déguste systématiquement à l'aveugle et c'est vraiment la qualité organoleptique du vin qui nous guide.
Philippe, donc, si Fabrac, est-ce que c'est important, oui, comme le dit Émilien, de déguster à l'aveugle? Est-ce que ça vraiment, ça gomme les influences?
Oui, bien entendu. On est toujours influencé par un certain nombre de facteurs, ne serait-ce que l'origine, le nom du producteur, le millésime, etc. Dans le cas qui est expliqué là, on est sincère entre guillemets avec soi-même. Oui. Et ça, c'est super important pour laisser tomber tous les a priori et choisir uniquement sur la qualité, sur le style, sur le profil. Oui. Et pour les champenois au moment de la cuvée, sur la projection aussi.
C'est ça, il faut anticiper. Philippe Bilan, c'est pas facile le sport des Biliens. Hein.
Oui, bien sûr. Mais en fait, ça demande aussi sur une bonne connaissance des terroirs. Oui. Et ensuite, c'est l'adéquation entre le cépage et son terroir qui va donner ses caractéristiques.
Et la pâte d'Émilien aussi. Tout à l'heure, Émilien faisait référence à l'échelle des crus en Champagne. C'est pas évident pour les auditeurs. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors l'échelle des crus en Champagne, ben là j'en ai cité cinq. Par exemple, Avize, on est sur un grand cru. Vaudemange, que j'ai cité, qui est dans la montagne de Reims, on est sur un premier cru. Et les trois autres sont non classés. Donc c'est ça l'échelle des crus en Champagne, c'est que les villages, donc les crus, sont tous classifiés en grand cru, premier cru ou non classés. Et c'est lié directement au terroir. C'est un classement qui est historique et qui fait toujours foi aujourd'hui. Et justement, d'une année sur l'autre, bien sûr, il y a l'effet millésime, mais on retrouve les traceurs pour chacun de ces terroirs. À Vise, on va toujours retrouver des notes d'agrumes, de la minéralité, de la fraîcheur, de la vivacité en bouche. Là où sur Vaudemange, on est sur un terroir différent, on va avoir beaucoup plus de puissance en bouche, de structure, de gras. Et Montgueux, par exemple, pour en citer un troisième, qui est à côté de Troyes, on va souvent retrouver des notes tropicales avec de l'ananas, de la passion.
Les donc, tropiques à côté de Troyes, même... les tropiques ouais, à côté de Troyes, faut quand même beaucoup d'imagination. Mon cher Émilien, non?
Eh ben, tout à fait. Ben, vous pensez pas si bien dire parce que, donc là, je vous l'ai dit, il y a des différences d'expression pour un même cépage dans les différents secteurs. Et qu'est-ce qui fait la différence d'expression? Eh bien, c'est le terroir. Et le terroir, c'est le climat et le sol. Et on parlait de tropique du côté de Troyes. Ce qui est intéressant, c'est que la Champagne est un des terroirs, si ce n'est le terroir, c'est plus vrai aujourd'hui, mais un des terroirs les plus au nord du monde. En fait, on estime qu'au-delà du septentrional, tout à fait, on estime qu'au-delà du 50e parallèle, au nord du 50e parallèle, c'est quasiment impossible de cultiver la vigne. Alors, on a nos amis belges et anglo-saxons qui ont réussi à défier les lois de ce
Philippe 50e
Fabrac, parallèle.
Philippe Fabrac, est-ce qu'il est bon le vin belge? Est-ce que c'est une bonne blague ça?
Ça s'améliore.
Est-ce que ça pouvait être pire?
Oui, ben ça a été pire quand ça a commencé. Mais c'est vrai que l'évolution, notamment du climat, permet effectivement de monter un peu sur la latitude. L'évocation du vignoble anglais est quelque chose qui fait sourire, mais qui est une vérité aujourd'hui qualitative, non négligeable.
Et vous connaissez Philippe Bidalon, le vin anglais là? Oui. Vous avez un ennemi qui vous a fait une bouteille?
Non, pas du tout, parce qu'effectivement, c'est plutôt qualitatif. Et c'est pas un hasard s'il y a de grands groupes champenois qui investissent dans le sud de l'Angleterre, puisqu'on retrouve une géologie, surtout sur le calcaire.
Hein. Ouais, qui ressemble beaucoup au terroir champenois.
Quoi.
Non seulement ça ressemble, mais c'est le prolongement du terroir champenois, tout simplement.
Bon, Émilien?
Eh ben, Tout à fait, bonne transition. Donc le climat, pour résumer, en Champagne, on a quand même la double influence qui fait la typicité de nos vins, qui va surtout permettre d'avoir la fraîcheur des vins de Champagne, avec l'influence océanique qui va apporter de l'eau en quantité assez régulière, et puis une influence continentale qui parfois peut être un peu dévastatrice avec des gelées, notamment en hiver ou au printemps. Donc voilà pour le climat. Et puis le sol qu'on peut même redécomposer en sol et sous-sol. Et en effet, le lien entre la Champagne et le sud de l'Angleterre, c'est le sous-sol, un sous-sol calcaire qui est commun à l'ensemble des terroirs champenois. Et ce qui va faire la différence entre les terroirs, c'est la proximité de ce sous-sol crayeux avec la surface et donc l'épaisseur de sol. Et là, on va parler de pédologie qui va faire la différence et les subtilités d'un terroir à l'autre. Et chacun des terroirs champenois, chacune des grandes régions a une affinité avec l'un ou l'autre des cépages emblématiques champenois. Donc si on prend la Côte des Blancs pour rester sur le Chardonnay, on est vraiment sur un sous-sol de craie, une craie pure, brute, qui est très proche de la surface avec un sol finalement très faible. Et du coup, les racines qui vont s'imbriquer dans cette craie, au cœur de cette craie, pour venir y puiser l'eau et puis toute la minéralité, puisque les minéraux vont passer dans l'eau, puis dans les racines et arriver jusqu'au raisin pour donner la typicité des chardonnays de la Côte des Blancs.
Philippe Orbach,
une petite question concernant les cépages historiques aussi, comme le Pinot Blanc, l'Arbane, le Petit Mélier. Qu'en est-il aujourd'hui de leur intérêt, de leur implication finalement dans l'assemblage champenois?
Vous en avez un peu, Emilien, ou pas?
Alors à l'échelle de la Champagne, ça reste toujours minoritaire, mais on voit en effet réapparaître de plus en plus ces cépages, donc que sont le Pinot Blanc, l'Arbane, le Petit Mélier, le Pinot Gris. Nous, on en a, mais c'est l'épaisseur du trait. C'est vraiment quelques vignerons qui ont ces cépages-là. C'est intéressant, notamment, je pense au Petit Mélier, qui, dans un contexte de réchauffement climatique qu'on a évoqué tout à l'heure, peut nous permettre de ramener de la fraîcheur, de l'acidité dans les vins. Donc c'est encore très minoritaire dans le vignoble,
oui, mais
c'est des outils en plus, voilà, c'est des leviers en plus qui sont intéressants. Donc pour en revenir aux autres grandes régions, une région qui est beaucoup plus au sud qu'on peut évoquer, c'est la Côte des Barres, avec un sous-sol qui pour le coup est à dominante calcaire également, mais qui est différent. Là on est sur un sol plutôt marneux avec des marnes en sous-sol, du kiméridien, encore un mot un petit peu original.
Ah bah si, c'est l'époque de David Cobol, moi je connais, j'ai très bien connu ça, j'ai fait un excellent reportage.
Tout à fait.
C'est ça, oui, Jurassic Cobol. Oui.
On l'appelle d'ailleurs le dinosaure de notre pétier.
Donc là, on est toujours sur les calcaires, mais beaucoup plus dur. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Vous avez compris que les terroirs en Champagne sont multiples, que ça soit par le sol, le sous-sol, le climat, et même au sein d'un même village, les pentes font varier les microclimats très localement. Donc au final, on a une multitude de terroirs sur 319 crus, 319 villages, plus près de 300 000 parcelles. Et en fait, toute cette composante, toute cette mosaïque du terroir champenois, elle nous est très utile à nous vinificateurs au moment des assemblages, puisque c'est autant de possibilités qui s'offrent à nous. Et là, place à la magie de l'œnologie et de l'équipe œnologique pour essayer d'assembler tous ces trucs, tous ces terroirs, toutes ces palettes aromatiques et de texture afin de créer les assemblages qu'on fait chaque année.
Merci beaucoup, Emilien. Je rappelle que vous êtes le chef de cave de la maison Piper Heitzig et qu'on a le grand plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de InVino Sud Radio.